prédication du 19 août 2007 apportée par le pasteur Alain Ouvrard sur le thème « Le crible ».
Voilà, que Dieu nous bénisse à travers ce rendez-vous, ce nouveau rendez-vous. Et je vous propose, alors c'est peut-être, vous direz-vous, c'est la continuité de la semaine dernière, mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est le même texte avec un aspect différent des choses considérées. Je vous invite à lire dans Luc, chapitre 22, verset 31, s'il vous plaît. Vous en souviendrez, hein, c'est le texte de la semaine dernière. Mais on va voir autre chose. La parole est inépuisable. 22:31, Évangile de Luc, le Seigneur dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Quand tu seras converti, affermis tes frères. » Ce qui nous intéresse, c'est l'interpellation. Vous remarquerez que Jésus appelle Simon, Simon, il ne lui dit pas Pierre, Pierre. Il l'appelle par son vieux nom, son nom d'homme naturel. Et il lui dit, il lui fait cette révélation, « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » J'aimerais, avant d'aborder le sujet, proposer trois observations préliminaires qui me semblent importantes. La première observation est en rapport avec notre éveil spirituel. Notre perception du monde spirituel, et Pierre l'explique lorsqu'il écrira dans son épître ces paroles, « Bien-aimé, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées à l'avance ou des choses annoncées d'avance. » Il est question de la parole qui fait en sorte que lorsque le Saint-Esprit est bien là, au milieu de nous, en notre fort intérieur, nous rappelle les avertissements pour susciter notre saine intelligence et faire en conséquence et répondre, en tous les cas, d'une manière qui soit une manière digne du Seigneur, une manière de foi, réponse par la foi. La deuxième observation, elle est plus précise, elle a trait au monde, aux réalités invisibles mobilisées contre le peuple de Dieu. On l'a lu, hein, j'ai prié parce que, attention, Satan t'a criblé, il t'a réclamé pour. Donc, ça c'est une deuxième chose dont nous avons besoin de prendre en compte ce matin. Toujours dans l'épître de Pierre, au chapitre 5, il est dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, alors résistez-lui avec une foi ferme. » Donc, on comprend que Pierre a écrit toutes ces choses parce que lui, il avait fait l'expérience. Le reniement, et puis tous les pièges et les traquenards dans lesquels il était tombé. Fort heureusement, Dieu lui a fait grâce. « J'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. » Après, il pourra l'écrire 40 ans après, ou 30 ans après, il pourra écrire « Attention, ce n'est pas des courants d'air, ce n'est pas des illusions, c'est quand même une réalité spirituelle. » Troisième observation est en rapport étroit avec notre position intérieure. On a vu la parole, on voit maintenant les défis, et puis il y a également notre position intérieure, c'est notre état moral et spirituel. Et dans le livre des Hébreux, au chapitre 12 et au verset 1er, il dit ceci. « Nous donc aussi, rejetons tout fardeau et le péché, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus. » Et d'ajouter au verset 3, considérez celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition, c'est-à-dire Christ, puisque nous avons les regards fixés sur lui, afin que vous ne vous lassiez point, et vous connaissez la suite, l'âme découragée. Parce que le but de l'adversaire, c'est de nous décourager, de nous lasser, de nous amener à un tel point où finalement nous n'avons plus aucune réactivité, aucune résistance. Alors, en résumé, on peut dire les choses de cette manière, être réveillé, ou être éveillé spirituellement d'un danger permanent, parce que ce n'est pas qu'occasionnel, c'est permanent, où nous pouvons puiser nos forces et notre énergie que dans la personne de Jésus, parce qu'il est l'unique victorieux de l'oppresseur, afin de courir, nous, vers le but, sans découragement et sans abandonner la partie. Et ça, il faut absolument que nous soyons pénétrés de cela. Parce qu'autrement, nous n'irons pas loin. Et hélas, il y a beaucoup de frères et de sœurs qui ont confessé le nom de Jésus et qui se sont arrêtés en chemin, pour différentes manières. Alors, on a quand même ces avertissements pour susciter, comme dira finalement Pierre, votre saine intelligence. Alors, on n'abdique pas notre intelligence. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien que finalement, eh bien, on se dit « non, je ne pense plus ». Non, au contraire, nous sommes des hommes libres. Nous avons été libérés et aujourd'hui, nous avons finalement eh bien, tout ce qui est nécessaire à la foi et à notre vie spirituelle, en notre relation avec Dieu et avec les autres, pour nous déterminer comme il convient, mais en nous appuyant sur sa parole, en étant conscient qu'il y a des réalités au-dessus de nous qui nous menacent, mauvaises, et que d'un autre côté, eh bien, nous avons aussi eh bien, là, besoin de persévérance et de nous tenir les yeux fixés sur Jésus. Ceci dit, ça, c'est le besoin de l'Église. Un besoin de tout temps, le besoin d'aujourd'hui. Être consciente, pour l'Église, des réalités invisibles. La mission de Paul, elle se déclinait de cette manière quand Paul l'a appelé, vous savez, après le chemin de Damas, et qu'il racontera beaucoup plus tard au chapitre 26 du livre des Actes, il dira « Voilà, je t'ai envoyé vers les nations afin que tu leur ouvres les yeux et qu'ils passent des ténèbres à la lumière. » Ça veut tout dire. Avoir les yeux ouverts. Alors vous les avez ouverts ce matin. J'espère que vous n'allez pas les refermer pendant la prédication. Je vais y veiller. Avoir les yeux ouverts. Eh bien, c'est sur le sujet que nous allons développer notre méditation sur les manœuvres de l'ennemi, l'ennemi de Dieu, l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de tous les hommes, qui a pour objectif avoué de confondre, d'obscurcir et de troubler. Et en finale, de perdre, quoi qu'il en soit. On a cité le verset la semaine dernière, me semble-t-il, en ce qui concerne cette réalité spirituelle de l'adversaire, du diable, de ces esprits méchants, mauvais, dont nous avons les manifestations tous les jours autour de nous. Eh bien, il est dit ceci, « Nous ne lui laissons pas l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Alors, quelquefois, je suis assez décontenancé, voire même atterré de voir comment des chrétiens peuvent se faire prendre au piège, alors qu'ils ont été avertis. Avertis, mis en garde par l'esprit, par la parole, par peut-être ceux qui les environnent. Et il est dit, nous ne lui laissons pas l'avantage. Quand vous savez, et Jésus le dira, quand vous savez que vous avez là dans votre région, dans votre quartier, des gens qui rôdent, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre des précautions? Vous n'allez pas leur laisser l'avantage? Vous avez bien fermé la porte de votre maison ce matin? Oh, je suis en train de vous dire des choses qui vont vous troubler pour tout le reste du culte. Mais non, mais qu'est-ce que l'on fait dans les choses indifférentes de la vie? Ben, on ferme les portes, on ferme ceci, on ferme cela. Bien sûr. Alors nous ne voulons pas lui laisser l'avantage parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Un voleur est fait pour voler. Et le diable, il est fait pour tuer et pour anéantir la foi. Le peuple de Dieu libre et perspicace sera véritablement dans une position de liberté. Et la liberté, c'est quoi? C'est faire confiance à Dieu, parce que c'est lui qui prendra soin de nous. Il prendra soin de nos personnes. Il prendra soin de ceux que nous aimons. Il prendra soin de nos biens. Et nous serons libres. Libres au sens où véritablement notre conscience, notre esprit, nos pensées, notre âme. Et à ce moment-là, puisque nous sommes des êtres libérés, et que nous disons non à la peur qu'inspire toutes sortes de dangers où il y a derrière celui qui se tapit pour essayer de faire monter les vagues, alors à ce moment-là, nous serons capables à notre tour d'offrir à d'autres l'affranchissement et nous deviendrons un peuple conquérant qui ne sera pas retenu par la crainte et par la peur. Et nos victoires spirituelles, à travers des délivrances et des guérisons, nos victoires spirituelles sera la marque d'un peuple fidèle à sa mission et qui deviendra, selon les termes de l'Évangile, la colonne, l'appui et la colonne de la vérité au sein d'un monde enténébré. Et être, selon l'expression de Paul dans Philippiens, vous êtes des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. Nous ne devons pas l'oublier, naturellement. Voilà ce que doit être l'Église. Mais est-ce que l'Église est cela? Toute la question que nous allons voir. Nous allons revenir à notre lecture au chapitre 22 de Luc. Et ce texte, même s'il n'est pas très long, révèle trois aspects importants de la lutte universelle. Et c'est une lutte universelle parce qu'elle implique Dieu. Elle implique la créature de Dieu, l'homme. Et elle implique l'opposition à Dieu et à l'homme, c'est-à-dire ce que nous appellerons le diable. Dans la traduction, ça veut dire tout simplement celui qui s'oppose, celui qui est l'adversaire. Il y a un verset qui mérite d'être lu d'abord, où Jésus dira « Je dispose du royaume en votre faveur, dira-t-il à ses disciples, comme à nous-mêmes, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes. » Alors le boire et le manger, c'est une chose qui sera certainement différente de nos tables terrestres. Mais une chose que je remarque dans ce que Jésus dit à ses disciples et qu'ils doivent retenir et que nous devons retenir, c'est que nous soyons assis sur des trônes. Assis, position assis, nous allons y revenir. Ceci révèle que l'Église fidèle héritera de la gloire céleste, mais avant de parvenir à cette glorieuse réalisation, il faut savoir, frères et sœurs, que l'ennemi mettra tout en œuvre pour anéantir, non la promesse de Dieu, parce que la promesse de Dieu restera, elle demeurera, pas un iota ne tombera de cette promesse, mais il fera tout pour que les destinataires de cette promesse, c'est-à-dire nous-mêmes, eh bien, nous soyons défaits. Le diable ne peut rien contre la parole de Dieu, mais il peut beaucoup de choses contre nous qui croyons à la parole de Dieu et pour garder la parole de Dieu. Alors, en conséquence, c'est Jésus qui se tourne vers Pierre, l'apôtre Pierre. Il va l'appeler, comme je l'ai dit tout à l'heure, de son vieux nom, de son nom d'homme naturel. Il lui dira « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler ». Il est question à ce moment-là dans la manière dont les choses vont se passer, puisqu'il s'agit d'un crible, d'une guerre d'usure, de tribulation, sans cesse renouvelée, de quelque chose qui fait que ça érode, que ça use, que ça sape. Et Satan veut mettre en échec, en raison de cela, de ce qui est prévenu à Pierre, notre salut, soit notre espérance. Parce que je voudrais quand même vous dire que nous sommes sauvés, nous l'avons chanté dans les cantiques, nous sommes sauvés, mais frères et sœurs, je ne voudrais pas vous troubler, nous sommes sauvés encore qu'en espérance. Nous avons besoin de nous réjouir en espérance de notre salut. Mais, hélas, combien de frères, de sœurs, combien d'hommes, de femmes, après avoir confessé Jésus, ne verront pas le salut, ne l'ont pas vu, pour la bonne raison, parce qu'ils ont délaissé Jésus. C'est une promesse. Elle est là dans notre cœur, elle est déjà vivante, elle est déjà réelle, mais il faut aller jusqu'au bout. Et il y en a un qui va mettre des obstacles pour que nous n'allions pas jusqu'au bout. Quelquefois, nous sommes consternés de voir que nos églises sont si peu nombreuses. Après des années, des décennies d'annonces de l'Évangile, parce qu'il y en a plus qui sont dehors que dedans. C'est triste. Maintenant, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Tous ceux que nous appelons parfois un petit peu péjorativement des rétrogrades, mais qui ne sont peut-être qu'au dernier moment, à la grâce de Dieu. Et jamais oublier de continuer à prier pour eux. Alors, pas d'illusion. Nous n'avons pas à nous faire d'illusions. La vie chrétienne est un marathon, frères et sœurs. Et nous a bien dit que c'est une course, que nous devons marcher, et que nous devons marcher encore, et que nous devons continuer à marcher. Non seulement l'ennemi nous empêche de parvenir à notre destination éternelle, mais il monte une détermination que je qualifierais d'acharnée pour détruire ceux qui appartiennent à Dieu. Et il est capable d'utiliser tous les stratagèmes inimaginables, et des stratagèmes qui ne varient pas à travers les siècles. À la différence, c'est qu'il sait que chaque nouvelle génération qui apparaît, souvent on ne tient pas compte des erreurs des autres, de ceux qui nous ont précédés. On ne tient pas compte de l'histoire. On ne tient pas compte des avertissements que les autres et des combats des autres. Alors il se révèle toujours de la même manière, toujours avec les deux leviers fatidiques, la souffrance et la jouissance. Et il sait très bien qu'il trouvera une clientèle pour l'un et une clientèle pour l'autre. Et là, je vais vous dire qu'il le manie d'une manière diabolique, dont le génie est un génie diabolique, pour essayer finalement, de mettre en échec ce que Dieu a fait. Et nous devons le savoir. Parler du diable aujourd'hui, ça n'a pas cours. On se dit, mais c'est moyenâgeux, ça relève des temps où les gens n'avaient pas la connaissance, ils étaient des ignorants. Expliquez-moi, frères et sœurs et mes amis qui êtes là, expliquez-moi ce qu'il y a derrière l'occultisme, l'astrologie, le spiritisme, le satanisme. Dites-moi ce qu'il y a derrière. Et là, vous allez être horrifiés. Alors, si le diable n'existe pas, Dieu n'existe pas. Alors, il n'y a plus d'enfer, il n'y a plus de ciel. Et qu'est-ce que nous faisons là, après tout? Et qu'est-ce que cette révélation que nous avons reçue? Eh bien, la révélation que nous avons reçue, elle est la vérité. Et je la crois de tout mon cœur. Ça, c'est important. Alors, tout le reste doit être vrai aussi. Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme il vous a réclamé. Il a revendiqué un droit sur toi, mon frère et ma sœur, parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu fais quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ceux qui ne font rien, ils dorment tranquilles, le diable les laisse tranquilles. Mais vous qui voulez être conséquent, vous qui aimez le Seigneur, vous qui voulez servir Dieu, il vous a réclamé, il nous a réclamé. À Saint-Nazaire, il nous a réclamé. Alors attention, nous mettons les pieds. Il nous a réclamé pour nous posséder en son pouvoir, de changer de pouvoir. Nous sommes sous le pouvoir de Dieu et il se dit maintenant, ils ont changé de camp, je vais essayer de les faire revenir. Parce que c'est hélas une réalité. Il y a un mot significatif et à la fois redoutable, c'est le mot « criblé ». Ça pourrait être intéressant finalement de prendre en considération. Criblé. C'est l'illustration du grain de blé qui est violemment agité dans un tamis. Vous savez ce que c'est qu'un tamis ? Hein, les enfants en ont au bord de la mer, là, vous savez, pour passer le sable. Bon, c'est tout à fait approprié. Mais c'est ça, un tamis. Là, c'est le croyant qui est mis en cause. Il est mis en cause dans sa personne. Il est mis en cause dans son appartenance à Dieu. Il est mis en cause dans sa foi dans la parole de Dieu. Il est mis en cause dans sa fidélité. Et si je vous dis tout ça, vous pensez à un personnage de l'Ancien Testament qui s'appelle... Ça commence par un J. Ah ben voilà, Job, premier, deuxième chapitre du livre de Job, c'est le tamis par excellence. Et un homme qui était intègre et droit, et qui aimait Dieu, qui servait Dieu, et là, vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Il y eut un jour, une réunion dans le ciel, dans les lieux célestes, et les fils de Dieu se sont réunis. Mais Satan vint aussi, et il est dit, à un moment donné, que Satan demanda à Dieu, « Laisse-moi Job, je vais m'en occuper ». C'est exactement la même configuration. Vous avez ce texte dans le livre de Job et vous avez ce texte au chapitre 22, tout simplement, de Luc. C'est un enjeu entre Dieu et le diable. Et c'est un défi sur nos têtes. Et on ne sait pas toujours ce qui nous arrive. On se dit, mais Seigneur, je ne comprends pas, ma vie est en train de... Je vis des choses. Je vis des choses que je n'arrive pas à comprendre dans ma santé. Vous vous souvenez de Job? Avec le tesson, là, pour se gratter. Et puis, dans le plan familial, Job, il a perdu tous ses enfants. Et en plus, sa femme lui a dit, maintenant, tu maudis Dieu et tu mords. C'est une bonne consolation. Mesdames, ne faites jamais ça à vos maris. Vous allez les tuer prématurément. Et puis, dans ses biens, c'est véritablement une chute libre dans Un homme prospère qui va tout perdre, ses troupeaux, ses serviteurs, il va tout perdre. C'est terrible une chose pareille. Et quelquefois dans la vie des hommes d'aujourd'hui, mais c'est la même chose, le crible, il se situe au niveau de notre santé physique. Et on passe par quelques mauvais quarts d'heure, hein, vous en souvenez. Et elle peut se faire au niveau d'un état de dépression qui nous atteint. On ne sait pas pourquoi, mais on est déprimé. On est en dépression, on est angoissé, on est malheureux, on est mal dans sa tête, on est mal dans sa peau, on est mal dans son cœur. Et on ne sait pas. Et on dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qu'il m'arrive? Pourtant, je suis un enfant de Dieu. Quelquefois, il nous attrape dans nos situations économiques, professionnelles. Il nous fait perdre notre travail. C'est arrivé à certains où on se retrouve sur la paille. Et on se dit, mais Seigneur, pourtant, je croyais que c'était bien engagé pour moi. Ou alors, ça sera dans votre famille. Et là, aujourd'hui, je peux vous dire qu'il se frotte les mains parce qu'il n'a pas trop de mal. Les séparations, les divorces, les enfants qui sont ballottés d'une droite et de gauche. Et ceci et cela, je peux vous dire qu'il brasse. Et le tamis, il est secoué énergiquement. Et il y en a qui tombent. Hein. Parce qu'il n'y a que les plus frères. Par la grâce de Dieu qui reste dans le tamis, parce que tous les autres y passent au travers. C'est un défi sur nos têtes. Vous pourrez demander à tous ceux qui sont engagés dans une mission, missionnaire, évangéliste, pasteur, ce que veut dire le tamis, le crible. Alors, ce sont tout simplement une résolution de l'adversaire de nous faire passer par ces feux croisés. Il s'arrange pour faire concourir plusieurs facteurs en même temps, parce que c'est terrible aussi cela. Vous avez une situation, et je l'ai vu dans la vie des chrétiens, et même quelquefois, nous l'avons observé dans notre propre existence, où il n'y a pas qu'une chose mauvaise qui arrive. Vous en avez une, vous en avez deux, vous en avez trois, et vous dites, mais c'est pas possible. Je suis complètement pulvérisé et écrasé. Ça vous est jamais arrivé, ça? Ah oui, regardez Job. Il nous est dit qu'à chaque fois, il y avait un serviteur qui venait lui dire, ah, Job, tes fils et tes filles étaient en train de ceci et cela, et puis un vent est venu, il a secoué la maison, ils sont tous morts. Et puis Job, un autre est arrivé derrière en disant, tu sais, tu avais des troupeaux dans tel endroit, eh bien il y a des Sabéens qui sont passés, ils ont passé tout le monde au fil de l'épée. Il avait même à peine fini de parler qu'il y en a encore un autre groupe qui vient en disant, mais tu sais, hein, on a volé là toutes tes ânesses, tes chameaux, etc., etc. Bon, c'est dans le contexte du temps. Mais c'est pour vous dire que ça crépite, hein. Ça tombe menu, c'est du pilonnage. Et le diable s'arrange dans un moment ou un autre de notre vie pour faire concourir tout ça et pour nous amener à être acculés complètement et totalement pour que nous disions, eh bien, moi je ne crois plus en Dieu parce que si Dieu existait, il n'aurait pas permis tout ça. Tiens, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Ça ne vient pas du Seigneur. Ôtez-vous ça de la tête, mes frères et mes sœurs. À moins que vous ayez vous-même provoqué la situation, à moins que vous ayez péché, ça c'est une autre affaire. Vous savez comment faire pour s'en sortir. Il faut demander pardon, se repentir sincèrement, et Dieu vous pardonnera, parce que Dieu est un Dieu de pardon. Mais quand ça vous arrive et que vous dites, ben moi j'ai essayé de vivre mon intégrité devant Dieu, je veux faire les choses justement, je veux vivre dans la vérité, et je veux faire du bien, et que ça vous arrive de tous les côtés, vous ne voyez même pas de quel côté ça vient, alors à ce moment-là, vous n'avez plus qu'une chose à faire, eh bien de vous réfugier en Dieu. Vous savez, lisez les psaumes, vous verrez si c'est pas vrai ça. Les psaumes, c'est ça l'histoire. Tous les psaumes, une grande partie des psaumes, c'est l'homme qui est pris à partie par les puissances mauvaises et qui là dit, Seigneur, mais je crie à toi, je suis malheureux, je suis à deux pas de la fosse. Et vous avez remarqué que dans les psaumes, ça commence toujours par des cris et souvent ça finit par des cris de joie. Seigneur, l'Éternel m'a sauvé. Parce que Dieu sait très bien que nous sommes à la merci d'un enjeu qui nous dépasse. Et Dieu est un Dieu de compassion. Vous croyez qu'il va vous perdre? Vous croyez qu'il veut nous perdre? Qu'il prend des risques? Satan vous a réclamé comme le froment. C'est le crible pour nous ébranler et nous faire lâcher prise. Pierre, moi j'aime bien Pierre parce que là, en tous les cas, on parle de lui en ce moment. Et il parle et il écrit après ses épîtres par l'expérience qu'il en a faite. Et vous savez ce qu'il dira à un moment donné, bien-aimé, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange, comme si vous étiez des intouchables parce que vous appartenez au Seigneur, comme si finalement, eh bien là, vous étiez dans une bulle, dans une sphère hermétique et que rien ne vous arrivera. Écoutez, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, et il évoquera une image qui est encore peut-être plus forte que le crible, il dira de la fournaise ardente qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Eh bien, si nous sommes de l'or, si nous passons par le crible et si nous passons par la fournaise ardente, les scories vont disparaître et nous ressortirons encore plus purs. Chapitre 42 de Job. Il est mort, Job ? Non, il n'est pas mort. Il a appris des grandes leçons. Et pourtant, il a crié. Il a hurlé. Il a hurlé à la mort. Il voulait mourir. Il maudissait le jour de sa naissance. Et quand nous lisons le chapitre 42 de Job, on voit un homme qui est remis en place, qui est reconstitué, qui est visité, qui est purifié, qui est rempli de la vie de Dieu. Et Dieu lui donne une bénédiction à profusion. Pour lui, les scories étaient tombées. Et vous savez pourquoi il a eu du mal ? Entre autres, parce qu'il était intègre et juste. Mais il croyait tellement qu'il était intègre et juste. Et ça, c'était sa propre justice qui a fait qu'il a passé par cette épreuve. Mais Dieu voulait lui faire grâce à Job. Et s'il a fait grâce à Job, je voudrais vous dire, mais il va vous faire grâce aussi à vous, mes frères et sœurs. Ne vous découragez pas. Jésus dira cette parole. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand tu seras de retour, affermis tes frères. Soutiens tes frères. On comprendra que Pierre soit réclamé par Satan, car s'ouvre pour lui des perspectives de mission. Et moi, je voudrais ajouter quelque chose. Ça plaît peut-être pas à tout le monde, mais je voudrais l'ajouter quand même. Si nous prétendons avoir un poste, une place dans l'œuvre de Dieu, pasteur, évangéliste, presséojote, etc., etc., le crible, le tamis, la fournaise vous attend, frères et sœurs. Parce que comment peut-on dire aux autres là où on n'est pas passé soi-même? Et Pierre avait finalement, c'est avant son reniement, hein, mais Pierre avait déjà dans les plans de Dieu une perspective qu'il deviendrait un personnage, non pas sur la terre, mais un personnage pour le ciel, pour servir sur la terre, mais un appel venant du ciel. Et c'est pourquoi, naturellement, alors moi je voudrais quand même souligner que quand on est dans une responsabilité et qu'on vient plein de soi-même, quand on vient en disant « c'est moi, je suis le meilleur » et que vous commencez à être encensé, ben vous savez, ça c'est l'orgueil. Et moi je crois que quand même, il faut absolument qu'on inculque à tous ceux qui veulent servir le Seigneur, que servir le Seigneur, vous savez, on ne devient pas pasteur parce qu'on a envie de devenir pasteur. Combien j'ai entendu ce témoignage, et moi y compris, pour moi, que quand je voulais servir, le Seigneur m'a dit non, et quand il m'a appelé réellement, j'ai dit, non, j'avais dit oui au départ, excuse-moi, j'avais dit oui Seigneur, envoie-moi, hein, tu me... Et quand il m'a appelé la deuxième fois, alors j'ai dit non Seigneur, tu envoies quelqu'un d'autre. Comme ça, c'est comme ça. Méfiez-vous de ceux qui courent devant la... Parce que c'est dangereux, ils courent vite, mais ils peuvent s'arrêter très vite aussi. Alors, il faut dire que Dieu nous protège aussi. Il ne veut pas voir des gens qu'il a sauvés et qui, quelque part, ont été appelés, mais n'ont pas été encore autorisés, n'ont pas été encore envoyés. On peut être appelé sans être envoyé. Et entre le temps des deux, eh bien, il peut y avoir, quelquefois, pas mal d'écoles à passer. Parce que Dieu veut, c'est très bien que celui qui s'avance, le diable, va le disputer furieusement. Et s'il peut le dégringoler, il ne va pas se gêner de le faire. Et combien de jeunes ministères, s'ils avaient su attendre, eh bien, seraient encore dans l'œuvre de Dieu et seraient des hommes certainement remarquables aujourd'hui. Mais il y a eu des erreurs de personnes, il y a eu des erreurs aussi de jugement des pasteurs, en envoyant trop tôt des gens. Et puis aujourd'hui, bien, il en est ce qu'il en est. Nous avons un exemple que je prendrai dans le livre de Josué. Josué, c'est pas celui que vous connaissez, c'est un autre, c'est le souverain sacrificateur. Et dans le livre de Josué, il est question, dans Zacharie, chapitre 3, verset 1er, écoutez, vous allez voir le crible là, ça crépite, hein. Écoutez bien. « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. » Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ? Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, je te revais d'habits de fête. Je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent sur sa tête un turban pur, ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Eh bien, quand il y a un appel, il faut que Dieu soit là. Parce qu'il faut passer par une purification. Il faut passer par le crible. Il faut passer par le tamis. Il faut passer par la fournaise. Autrement, on ne tiendra pas. L'enjeu n'est pas un enjeu humain entre les hommes, entre eux. C'est même pas un enjeu entre Dieu et puis ses enfants. C'est un enjeu entre le diable et Dieu et dont nous sommes les visés. Vous voyez, c'est triangulaire. Et Job ne savait pas ce qui lui arrivait. Hein. Nous, on le sait parce que c'est écrit. Mais on ne le savait pas. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas de la rigolade, excusez-moi si je peux m'exprimer ainsi. C'est beaucoup plus dangereux qu'on ne le pense. Dans la parole vivante, la traduction, c'est celle-ci. « Simon, Simon, Satan a demandé le droit de te passer au crible. » La parole vivante, traduction. « Comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. » Eh bien, avant que nous soyons véritablement le blé, le froment, il faut que la balle s'en aille. Il faut que la balle soit secouée. Autrement, attention. C'est à ce titre, pour revenir à Josué, qu'il se tient devant Dieu pour empêcher le rétablissement du culte lévitique dans Zacharie, là, ce que nous avons lu. Et chercher à discréditer Josué. Le diable a de l'audace de disputer les desseins de Dieu et de ruiner la vie et la réputation de ceux que Dieu agrée. Que Dieu nous fasse grâce. Hein. Vous savez, c'est la réputation d'un homme, c'est la réputation personnelle, la vôtre. Ce peut être la réputation d'une église. Hein. Et quelquefois, la réputation d'une église dans une région, dans une ville, elle est drôlement salie. Hein. Elle est drôlement entachée. Elle l'est quelquefois par nos erreurs, par nos fausses et mauvaises manœuvres. Mais quelquefois, elle est tout simplement parce que nous sommes gênants. Ce que peut représenter la présence évangélique dans une région, eh bien, ça dérange le diable, ça c'est sûr. Disons quelques mots maintenant sur la connaissance de l'ennemi. Et le texte de référence, vous le savez, c'est Éphésiens 6. Je lis très rapidement. Il est dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa forte toute-puissance ». Ça commence par là. Ça veut dire « Mais n'ayez pas peur, parce que vous avez les ressources, vous avez l'arsenal pour tenir le combat ». La lutte se situe à un niveau si élevé qu'il n'est nulle autre force que celle de Dieu pour résister et rester debout. Ce n'est pas en faisant toutes sortes d'élucubrations ou de gymnastiques pseudo-spirituelles que finalement eh bien, nous allons rester debout. Ça se passe à un autre niveau. La parole « Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute-puissante », ce n'est pas quelque chose à minimiser. Si Dieu est là auprès de vous et qu'il détient tout ce qui vous est nécessaire, mais allez le chercher. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, face à un ennemi qui n'est pas loyal, à un ennemi, à un être perfide qui ne tient pas dans la régularité. Nous voyons que cet ennemi use d'artifices, de subtilités, de stratagèmes inimaginables pour parvenir à ses fins. Il en a roulé des hommes à travers les siècles et il est prêt encore à nous rouler. Il est deux fois doublement dangereux quand il se fait le serpent, Dixit, Genèse chapitre 3, ou quand il se fait le lion qui rugit et qui impressionne ses victimes pour les terroriser. Hein ? Pierre d'un côté, enfin l'épître de Pierre d'un côté, puis le début de notre Bible, le livre de la Genèse où il est question du serpent. Parce que c'est quand même plus facile à identifier un lion qui rugit parce que vous l'entendez, avec tous les effets que ça peut avoir sur votre équilibre émotionnel, mais un serpent qui rampe à vos pieds, on ne le voit pas, il ne fait pas de bruit, hein, à moins que ce soit celui qui se promène avec la petite sonnette là, au bout de la queue. Hein. Le serpent, le lion, attention, parce qu'il est question dans notre texte de ruse du diable. Un lion, quand il est à l'affût, il se met dans les buissons, il se tapit et puis il saute. C'est une ruse, ça, d'attaque. Puis le serpent, bah lui, c'est tout un monde, là. Tout un monde. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous dit Paul. Et afin de mieux circonvenir, Satan a mis en place un formidable réseau d'agents de toute nature qu'il tient sous sa dépendance. Ce sont des agents visibles à travers des hommes qu'il manipule. Tout le monde de l'occulte, tout le monde de l'astrologie, tout le monde de ses arts magiques. C'est quoi ça? Ça existe ou ça n'existe pas? Je me fais des idées ou quoi? C'est quand même une réalité. Et une réalité puissante, une réalité de mort, une réalité diabolique, une réalité infernale. Parce qu'il y a de la puissance de ce côté-là, hein, il y a du répondant. Alors ça, il se sert aussi d'hommes. Et il se sert aussi d'hommes élevés en dignité. Vous savez que notre monde gît dans le malin, vous le savez, c'est Jean qui nous le dit. Et il a des réseaux, c'est bien quadrillé, hein. Il y a des, on va le voir, des principautés, des autorités, des dominations, des esprits méchants, etc. Et il tient des hommes politiques, il tient la finance, il tient toutes sortes de choses. Les mailles sont très, très, très étroites, hein, faut pas se faire d'illusions. À travers le monde religieux aussi, et ça, il se fait fort d'utiliser le monde religieux pour sa crédibilité, pour dire « je n'existe pas ». Et finalement, tout ce qui arrive, c'est Dieu qui est responsable. Jamais lui. C'est tout ce travail subtil d'anonymat. On ne se fait pas voir, on est dans l'ombre. Alors il a ses agents qu'il tient sous sa dépendance. Contre la chair et le sang, je voudrais quand même donner une petite pensée. Parce que cette expression de Paul désigne la nature déchue de l'homme dans laquelle règne le péché, dont il est lui-même l'instigateur, le diable. Et il suffit au diable d'enflammer, permettez-moi d'utiliser ce verbe, d'enflammer, de souffler les passions, les vices, les ambitions, les orgueilleuses prétentions du cœur, les jalousies, les haines, pour embraser un immense conflit. Et il sait faire les choses. Et quelquefois, nous, on n'y voit que du feu, ou que du bleu, comme vous voulez, et on marche dans la combine. Et ça fait quoi? Ça fait des divisions, ça fait des guerres, ça fait des conflits partout, partout, partout. On peut dire comme un livre a été écrit, Le monde en flamme. Et lui, il ne veut pas que ça s'éteigne. Hein. Toute sa stratégie, finalement, c'est que ça s'allume de tous les côtés. Parce que l'homme est un pécheur et il devient l'instrument aveugle entre ses mains. Or, l'apôtre Paul ne dit pas que c'est contre les hommes, la chair et le sang, qu'il nous faut lutter. Mais contre celui qui est la main, celui qui est la pensée, celui qui est l'inspiration, celui qui est l'animation, celui qui est le chef d'orchestre, Satan. C'est un être pensant et intelligent qui a des siècles et des siècles d'expérience. J'allais vous dire, faites-lui confiance. Ne lui faites jamais confiance. C'est très, très subtil. C'est pour ça que nous sommes appelés à devenir des hommes spirituels, pour rentrer dans cette dimension du spirituel et de juger ce qui vient de Dieu et de ce qui vient d'ailleurs, de ce qui vient de la vérité, de la lumière ou de ce qui vient des ténèbres et de ce qui vient du mensonge. Parce que le premier péché, on est tombé dans le panneau, hein, c'était un mensonge éhonté et on a dit « Ah ben ça doit être la vérité parce que Dieu a-t-il réellement dit ?» C'est comme ça qu'on est tombé. Alors, s'en prendre aux hommes, et là ça fait partie de l'enseignement de la tenue, de l'équilibre et de l'amour fraternel, de l'amour des hommes, s'en prendre aux hommes qui sont manipulés fait encore le jeu du diable. Quand un frère ou une sœur me fait du mal, je ne parle pas pour moi personnellement, mais à ce moment-là, je vais lui dire, tu vas voir de quel bois je me chauffe, je vais lui dire les quatre vérités. Qu'est-ce que vous faites? Mais vous faites ricaner le diable, mes frères et mes sœurs, vous n'êtes pas capables de supporter quelque chose? Une contrariété, une vexation? Il y en a un qui vous attend, que vous vous enflammiez pour casser la tête à l'autre. Et là, il est content, il a déclaré une guerre. Alors, ça se fait dans les couples, ça se fait dans les familles, ça se fait dans les églises. Et lui, il dit, pendant ce temps-là, ils sont bien occupés, ils ne peuvent pas prier, ils ne peuvent pas louer, parce que l'état intérieur dans lequel ils sont, il est rempli de ressentiment. Et il est content. Vous êtes complètement détourné à ce moment-là. N'en voulez jamais à ceux qui vous font du mal. Le sermon sur la montagne, c'est quoi les béatitudes? Aimez vos ennemis. Pardonnez à ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous font du mal, etc. etc. Tant qu'on n'a pas compris cela, eh bien, on est encore à l'ABC de la vie chrétienne. Regardez Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur. Connaissez la suite. Ça, c'est l'esprit de l'évangile. C'est pas facile. Parce que naturellement, quand quelqu'un vous monte sur le gros orteil, vous savez comment ça fait? Bon. Je ne dis rien de plus. Parce qu'on a de la réactivité quand même. Hein. Alors, ça fait le jeu du diable. Et il est heureux, cet adversaire, quand il passe inaperçu. Quand il attise ainsi la violence et la vengeance, le sang et le meurtre. Et ça commençait avec nos deux gentils frères, Abel et Caïn. Et ça ne s'est jamais arrêté depuis. Il faut donc discerner, se défendre de l'ennemi là où il est. Alors Paul dira, mais contre, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais vous avez à lutter contre des dominations, contre des autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre des esprits méchants, dans les lieux célestes. C'est là-bas que ça se passe, c'est pas ici, il y a des retombées ici, mais au moins, soyez perspicaces, soyez, ayez un peu de discernement pour savoir que de toute façon, ça se fait pas comme ça. Ce n'est pas dans les lieux terrestres. Ce n'est pas contre les hommes, mais contre l'invisible, le monde invisible, les lieux célestes. Dans notre Père, on y croit ou on n'y croit pas. Il est dit, Seigneur, notre Père. Puis le reste, délivre-nous du mal. Est-ce que Jésus serait trompé en disant, mais j'ai employé un mot qui n'a pas de sens. Finalement, le mal n'existe pas. Jésus nous dit la vérité. Cet adversaire fera tout pour nous induire en erreur quant au véritable terrain où nous devons mener le combat. Et nous sommes appelés à mener le combat dans les lieux célestes. Et vous savez où nous sommes dans les lieux célestes? On va le voir et je termine là-dessus. Nous ne sommes pas debout, nous sommes assis. Vous vous souvenez? On l'a dit tout à l'heure. Et vous allez voir ce que c'est que la position assise. Domination, autorité, principauté. Il existe un royaume parallèle au royaume de Dieu. Il est structuré, d'après les termes que j'ai. Il est hiérarchisé. Et il est organisé. Il y a une tête, c'est Satan. Il y a ensuite toute une ramification que l'on appelle les dominations. Il y a des chefs, autorités et principautés. Il y a des troupes, les esprits méchants, c'est-à-dire les démons et les esprits, d'une manière ou d'une autre, qui se répandent sur la terre. La gravité est que, étant donné que le monde gît dans le malin, toute cette puissance au service du mal exerce son hégémonie, son influence, sa servitude, sa tyrannie sur le monde des hommes. Et les hommes n'y croient pas. Ils sont là à se battre contre la guerre. Ils sont là à se battre pour les inégalités, le racisme, etc., etc. Mais ils ne voient pas qu'il y a le grand manipulateur derrière. Vous savez, on a allumé un enfer pendant la dernière guerre. On a industrialisé la mort. L'élimination de peuples, je dis bien de peuples. C'est pas l'enfer, ça? Parce que on se dit le diable n'existe pas. Si vous lisez le livre de Daniel, du prophète Daniel, vous verrez qu'à un moment donné, c'est au chapitre 10, il nous est clairement montré que les rois sur cette terre, les gouvernants, les présidents et tout ce que vous voulez, tous ceux qui sont élevés en dignité. Merci de venir à mon secours. Ceux qui sont élevés en dignité, eh bien, ont des maîtres au-dessus de leur tête. Je me souviens toujours, c'est un petit clin d'œil, hein, il n'est plus président de la République maintenant, mais M. Giscard d'Estaing avait répondu à une question lorsqu'il a été élu à la présidence de la République. Il a dit, maintenant que vous êtes à l'Élysée, qu'est-ce que vous avez au-dessus de vous? Il a dit, le toit. Je me demande s'il était croyant. Lui, il avait vu que le toit. On serait peut-être attendu Dieu. Bizarre. On remarque, c'est vrai que c'était quand même le toit. Alors, rapidement, Satan a soif de suprématie. La vie ici-bas en est toute empreinte. Je le répète, dans la politique, dans l'économie, dans le social, particulièrement dans le religieux. Et tout cela a été institué en système universel. Relisez le livre de l'Apocalypse, chapitre 18, sur la Grande Babylone. Vous verrez, c'est bien expliqué, mais c'est très fin, hein. Tout est verrouillé en raison d'un impératif, faire échec à l'Évangile et à son Christ. Échec à Dieu. Échec au salut, au royaume de Dieu. Parce que le diable veut être adoré. Quand Jésus se trouve dans le désert, qu'est-ce que le diable lui dit? Deuxième tentation. Tu vois les royaumes de cette terre? Tu vois les puissances, tu vois cette gloire, cette richesse. Je te la donne si tu te prosternes et que tu m'adores. Et il y en a qui ont trouvé la combine. Je peux vous dire qu'ils ne vont pas chercher leur pouvoir auprès de Dieu, ils vont le chercher dans les pouvoirs occultes. Les grands de ce monde, ceci et cela. C'est une œuvre de destruction. Satan vous a réclamé. C'est une œuvre de corruption. L'Église est sous la menace. Vous vous souvenez de l'histoire de celui-là qui va dans son champ, il envoie ses serviteurs semer du bon grain. Et quand c'est la récolte, il s'aperçoit que c'est de l'ivraie. Le royaume de Dieu, nous dira Jésus, est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, eh bien son ennemi vint et il sema de l'ivraie parmi le blé et il s'en est allé. La nuit, le monde des ténèbres, le monde finalement de ce qui ne laisse aucune trace. Et je termine. L'apôtre dit « Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. » Alors moi, je pourrais dire ce matin, c'est fait. Je me suis fait le porte-parole, en quelque sorte. Éveillez votre saine intelligence. Parce que le peuple de Dieu doit faire face à un ennemi, un adversaire redoutable, dans un environnement hostile, antichrétien. En conséquence, il y a dans Éphésiens 6 un commandement du Seigneur qui tient en trois mots. Tenez donc ferme. C'est simple. Quand Pierre dit « Résistez-lui avec une foi ferme », il faut apprendre et à tenir ferme. Et ça, c'est essentiel. Alors j'en arrive à parler de notre position maintenant, qui est la nôtre en tant que chrétien. Je voudrais vous dire, et vous allez le constater immédiatement, c'est qu'il est plus facile de tenir ferme assis que debout. Vous ne me sentez pas trop fatigué, là? J'aurais pu m'asseoir. Hein. Puis vous, debout? Non, ça ne se fait pas, des choses comme ça. Hein. Ouais, il est plus facile de tenir ferme quand on est assis que quand on est debout. Tous les assauts du diable seront de nous renverser, de nous déloger de notre assise, nous faire perdre notre base par des embûches, par des tribulations, par des doutes, par des souffrances, par le découragement, par toutes sortes de choses qui porteront par la mauvaise langue, eh bien, des poisons, et visant tout simplement à nous déstabiliser. Et il nous appartient à nous, en ayant connu ce que nous connaissons et ce que nous entendons ce matin, de nous défendre, de garder, de consolider la victoire acquise par Jésus-Christ. Parce que notre position est suprêmement une position, non pas offensive, mais défensive. Offensive, il n'y en a qu'un qui a pris l'offensive contre le diable, c'est Jésus, il l'a vaincu. On ne chasse pas des courants d'air, bien que ce ne soit pas des courants d'air. Quand quelquefois je vois certains, il m'en est arrivé de le voir, je ne les vois plus, de prendre l'assaut contre le diable derrière les sciences occultes, des cabinets obscurs et tout ça. Moi, j'avais prévenu un jeune qui se préparait au ministère. Il m'avait dit, moi, tu sais, je prends les journaux gratuits, et puis tous les cabinets d'occultisme, je les prends et puis je dénonce derrière. Je m'attaque à eux. Ah bah, il s'est bien attaqué, hein, il a eu le retour. Hein. Il n'est plus chrétien, il n'est jamais rentré dans le ministère. Assis en Jésus-Christ, position offensive ou défensive. Nous sommes assis. La victoire, ce n'est pas nous. La victoire, c'est Jésus qui l'a prise. Alors, il faut bien mettre les choses en place. Par contre, celle de l'ennemi, elle est offensive. Elle est tous les jours. Et comme il sait qu'il a perdu, il cherche à reconquérir. Comme nous le disons vaincu et que lui ne s'avoue jamais vaincu, eh bien, c'est la continuité du combat. Alors le croyant doit tenir ferme l'ennemi dans la défaite et non l'attaquer. Nous luttons, non pas pour remporter la victoire, mais écoutez bien ce que je veux dire parce que c'est la clé. Nous luttons non pas pour remporter la victoire, nous luttons dans la victoire. Et là, c'est autre chose. C'est votre foi qui est mise en avant. Vous êtes vaincu ? Ben, c'est que vous le voulez bien. Hein. Parce que vous êtes virtuellement, réellement vainqueur. Nous ne luttons pas pour remporter la victoire, elle était remportée. Qu'est-ce que Jésus a dit à la croix, les derniers mots ? Tout est accompli. Alors qu'est-ce que vous voulez rajouter ? Nous luttons dans la victoire. En Christ, nous sommes vainqueurs et plus que vainqueurs. Dès lors, tout le sens de notre combat est résumé ainsi. Tenez donc ferme, gardez, maintenir, consolider, mieux encore, résistez-lui avec une foi ferme. La cible principale de Satan est notre foi. Je dis bien notre foi. Il veut la miner, il veut la saper, il veut la neutraliser. Et ses victoires sont quand il parviendra à nous faire faire naufrage. Ça, c'est son but, nous faire faire naufrage. D'autres, il les persuadera d'abandonner Dieu. D'autres, de renier leur foi, dixit Pierre. C'est pourquoi nous avons cet ultime conseil que je vous livre. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Une dernière remarque. Le meilleur moyen de garantir cette arme invincible est de l'offrir à Dieu dans la louange. Ma foi. Ce matin, nous sommes dans un culte de louange. Le mercredi, nous sommes dans une réunion de prière. Ça va pas l'un sans l'autre. Mais ce matin, nous disons, mais Seigneur, tu es le victorieux. Vous venez avec des problèmes et des difficultés, mais bien sûr que vous allez... Mais il faut prendre conscience que finalement, mais le Seigneur veut vous en délivrer. Mais si vous dites, Seigneur, je te prie encore, tu n'as pas entendu ceci et cela. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous neutralisez votre foi à ce moment-là. Mais si vous dites, mais Seigneur, je crois que tu es vainqueur. Je crois que tu me débarrasses de mes ennemis. Je crois que tu me délivres de mes pensées, de ma culpabilité, que tu me pardonnes lorsque j'ai fait des péchés. Lorsque tu fais tant et tant de choses, mais Seigneur, je proclame que tu es victorieux, que tu es vainqueur. Et moi, je veux être vainqueur avec toi. Alors vous ne luttez pas à ce moment-là pour remporter la victoire. Vous luttez dans la victoire et ça change tout. Ça change tout. Nos prières ne seront plus « Seigneur, donne-moi la victoire », mais plutôt « Seigneur, je te loue de ce que j'ai déjà la victoire ». Vous savez ce que ça crée, ça? Vous avez vu l'intonation de ma voix? Elle n'est pas pareille, hein? « Je te loue de ce que j'ai déjà la victoire ». C'est le repos et la paix à l'intérieur de moi-même. Mais par contre, si je veux mener le combat en écoutant tous les cliquetis de mes armes que je mets en... Alors à ce moment-là, ce ne sera pas Dieu qui sera glorifié. Je dirai, j'y suis arrivé par la force de mon poignet. J'y suis arrivé parce que j'ai prié, parce que j'ai jeûné, parce que j'ai fait ceci et cela, etc., etc. Mais vous vous épuisez, un jour le diable va vous avoir. Parce que les dépressions spirituelles, ça arrive. Et on est bien, très bien placé pour des gens qui sont marchés, partis en flèche et finalement, eh bien, ils sont descendus. Si nous croyons, nous demanderons moins et nous le louerons davantage. Si nous croyons, parce que tout est là. Et je termine par cette dernière citation de David. Parce que David, c'était quelqu'un. Hein, ah, il a fait des erreurs, ça c'est sûr. Mais c'était quand même quelqu'un. Il dira ceci. Je m'écris. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Alors j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Jésus n'a pas dit, j'ai prié pour toi, Simon, Simon, parce que tu es criblé, parce que tu vas être criblé, et je voudrais que tu restes quand même l'homme que tu es. Je voudrais que tu deviennes et que tu sois, eh bien, le premier de tous les disciples. Non, c'est pas ça. C'était sa foi. Afin que ta foi ne défaille point. Que Dieu nous bénisse ce matin. Qu'il nous fasse du bien et que nous puissions lui dire, eh bien, Seigneur, je te bénis et je te rends grâce de ce que tu as remporté la victoire sur toute chose. Dans le monde visible et dans le monde invisible. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Amen.